la piste des fêtes.
Ah, Westerman, vas-y, toi qui as le mic, envoie l'intro.
Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 22 janvier 2011. Nos programmes pour cet après-midi, à 13h du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h du reggae avec Zarma Farai et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici les héros japonais que vous attendez tous.
Radio FMR présente le supplément week-end, le magazine des cultures geek, avec du sport, Ultimatum, Das Bridge et la participation exceptionnelle de JB.
Ça va faire rire l'auteur en question. Non, non, vas-y, ne touche plus, c'est bon. C'est bon, amène le tien par contre. Ça va faire rire à mon avis l'auteur en question qui est un spécialiste. C'est peut-être le mien, ouais. C'est le mien. Passe-moi un autre micro. Ah, voilà, c'est ce qui s'appelle du direct. Et à mon avis, ça va faire rire Roger Leloup qui a écrit des chroniques sur la hi-fi et tout ça. Maintenant, il faut que je trouve le bon micro. Ouais, c'est le plus chiant.
Xavier parle sur toutes les ondes puisqu'il a deux micros dans la bouche. Non,
ouais,
devant
voilà,
la bouche, pardon.
À peu près. Hop, et voilà, trouvé. Et du premier coup. Ah, bienvenue dans la joie et le plaisir du direct. On va peut-être faire, parce qu'on a un programme qui est quand même extrêmement chargé. On a une actualité qui est hyper chargée dans tous les sens. Et ce serait un petit peu dommage, je pense, de passer à côté. Ah putain, mais en tous les micros là qui déconnent. Tiens, c'est dommage, du sport s'est barré. Mais on va quand même parler un petit peu de l'actualité.
Non, on est comme ça, nous on arrive, on se barre, on
voilà,
revient.
Bah, excusez-nous de cette interruption involontaire des programmes. Oh, allez, je déconne, allez, on y va. Donc on va faire on a quand même un programme assez lourd avec deux films très attendus, une thématique assez lourde sur un classique de la BD franco-belge avec une héroïne japonaise s'il vous plaît. Mais on a aussi plein d'actualités qui vont arriver. D'abord, faut pas oublier que la librairie Arcade va fermer la semaine prochaine définitivement ses portes, et ça c'est extrêmement triste, mais bon. Voilà, c'est comme ça. D'un autre côté, il y a aussi ton micro qui merde, Thomas.
Ah bon ?
Ouais. D'un autre côté, il y a le Festival International d'Angoulême, dont c'est la 33e édition, il me semble.
33 ans ?
Ouais.
Bon,
présidence ?
Baru.
Oui, bien, qui a dessiné ?
L'autoroute du soleil.
Ouais, bien. C'est vrai, entre autres, il a pas fait que ça.
Non mais qu'est-ce que tu crois, on est briefé quand on va là-bas.
Oui, surtout avec la double étiquette Radio Éphémère et Actua BD. Forcément, ça l'affiche. C'est pas des petits médias de merde comme le supplément week-end, s'il vous plaît. D'un autre côté, il y a aussi le festival Made in Agir. Et je rappelle que dans 15 jours, on aura un invité qui est un animateur, un réalisateur de films d'animation sud-coréen qui sera présent ici. Bonne chance. À mon avis, c'est toi qui va aussi t'y coller. Et accessoirement, de quoi on peut coller. On peut coller dans le stock. Punaise. On a appris que Uderzo s'est pris un redressement fiscal sur la tronche.
Ah, ça fait pas plaisir.
Ça fait pas plaisir, surtout quand on sait pourquoi il s'est pris un redressement fiscal. C'est parce qu'il est considéré par l'administration non pas comme auteur, dessinateur, scénariste, mais comme simple dessinateur. C'est-à-dire qu'il ne crée pas une œuvre d'art, il l'a construit sur les ordres d'un autre. Ah ! Alors là, évidemment, ça va foutre une putain de boule à tous les dessinateurs qui dessinent une série à partir d'un scénario, sachant qu'un scénario c'est jamais complet, un dessinateur fout toujours sa patte. Ne serait-ce que parce que c'est lui qui crée l'aspect des personnages, l'aspect des corps et tout ça, on en parlera tout à l'heure. aussi bien fiscalement que aussi sur la caisse d'a... sur la caisse d'assurance maladie auquel il cotise et tout ça. Ça la fout plutôt mal. Uderzo en est quitte pour payer pour un redressement. Alors, c'est pas un redressement, c'est il doit payer les arriérés, c'est pas un redressement parce que l'administration fiscale considère que eux aussi ils ont eu tort parce que eux aussi ils l'ont fait de bonne foi. Donc 300 000 euros il va devoir payer, c'est 20% de ses revenus sur les deux dernières années. Ouais, il est pas trop à plaindre hein, quand même, l'auteur d'Astérix. Parce que nous on sait bien une chose, c'est que Goscinny, depuis 78, il n'a rien scénarisé. Et entre nous, Uderzo il n'est pas que dessinateur, et aussi scénariste. Ce qui explique
Le gouffre. Le gouffre avec l'époque Goscinny.
Ouais. Ouais, je pense aussi, voilà. Donc on peut certifier et on peut faire une certification. Je pense d'ailleurs qu'il faut que je demande de suite à devenir un expert juridique là-dessus, en scénario et en dessin de bande dessinée. Je vous certifie que c'est bien Albert Uderzo qui a écrit les scénarios. Il n'y a pas de problème. Ça la fout plutôt mal.
Ouais,
sinon, pour en rester sur la politique, j'ai une triste nouvelle pour Martine.
Oui, le papa de Martine est mort.
Et voilà, je parle du dessinateur, bien évidemment, des romans pour enfants qui sortaient chez Casterman, et pas de la présidente du Parti Socialiste que tout le monde s'est amusé à parodier en 2007, à ridiculiser avec justement les illustrations, les couvertures sorties chez Casterman. Ce qui avait valu au site qui faisait ça quand même du papier bleu de la part de Caster. En disant vous démontez la série et tout, alors que la série est vivante. La preuve, c'est qu'on a sorti un jeu sur Game Boy, sur Nintendo DS d'ailleurs, il me semble. D'un autre côté, on n'aurait plus du tout parlé de Martine et sa mort serait passée complètement inaperçue. La mort du dessinateur serait passée complètement inaperçue si justement il n'y aurait pas eu ces parodies qui avaient remis, au goût du jour.
Ah, c'est clair.
Bon, vas-y, refais-le là, wesh wesh là, avec ta capuche.
Oh, c'est clair quoi. Je crois que c'est clair.
C'est presque convaincant. Bref, c'est un petit peu triste de ce côté-là, mais bon, on en reparlera. Du sport, va tout à l'heure faire chanter les six coups sur la télécommande. Même si on a plus de 6 chaînes maintenant à la télé, hein, ouais, c'est bien. Thomas va parler d'un super-héros et du petit monde des Sharpardeurs, puisque c'est un dessin animé japonais. Moi, je vais parler d'une japonaise, mais en attendant, de suite, on va parler de ce goût-là.
Voilà, ce goût. C'est un drôle de titre pour une bande dessinée. Donc, c'est dessiné et scénarisé par Neyef. C'est chez Ankama et ça raconte l'histoire d'un espèce de psychopathe qui a un arrière-goût dans la bouche. Alors justement, abandonné par sa mère quand il était petit, Harold est désormais ce que l'on pourrait appeler un sale con. Un être antipathique, obsédé par son boulot, constamment élu employé du mois et méprisant tout le monde sauf son ami Nelson. Mais un matin, un goût insupportable dans la bouche commence à le tarauder au point de l'obséder du matin au soir.
Lui, il a mangé des pines de pain chinoise. Hein.
Peut-être. Une seule solution, identifier la cause de cette réaction psychosomatique. Jusqu'où est-il prêt à aller? Les dommages collatéraux? Il faut dire que Harold s'en inquiète un peu comme de ses premières chaussettes. L'ennui quand on a un mauvais goût dans la bouche, c'est qu'on cherche par tous les moyens à s'en débarrasser. Et qui dit goût, dit manger, et ça, Harold va en manger des mets pour faire passer, et des mets de toutes sortes. Alors, ça vous rappelle peut-être quelque chose? Moi, ça m'a furieusement rappelé le film Le Créateur de Dupontel, où Dupontel, le personnage joué par Dupontel était pété les plombs parce que à un moment donné il s'est aperçu que en faisant des choses pas très catholiques, l'inspiration pour écrire sa pièce de théâtre revenait toute seule. Et donc là c'est pareil, c'est un peu, il y a Harold en fait, il a un goût dans la bouche et puis il va essayer de manger plein de trucs. Alors au départ ça va être des plats, alors il va tout faire, il va manger chinois, japonais, mexicain. Indien, voilà, plein de trucs, américains, il n'y a rien qui fait passer le goût. Et donc du coup, il va se tourner vers autre chose. Alors, le principe, la signature visuelle de cette bande dessinée, c'est que les personnages ont tous des faciès triangulaires, et alors c'est un trait super agressif, et la colorimétrie est également très agressive parce qu'elle est hyper, hyper saturée. Donc ces personnages sont ont successivement la peau rouge, la peau rose, la peau verte, la peau violette, la peau bleue, et ça dépend en fait de leurs humeurs, etc. Donc c'est vrai que quand vous feuilletez la bande dessinée, eh bien vous avez des couleurs qui vous sautent au visage et ça renforce un petit peu le malaise qui est provoqué par le scénario et par le personnage. Alors autant vous le dire, le personnage est tout à fait antipathique. On a du mal à s'identifier à lui, mais il est en même temps, il est tellement antipathique et sa quête, elle est tellement saugrenue qu'on a envie de savoir la fin. Alors évidemment, on va savoir qu'est-ce que c'est. Est-ce qu'il... Alors c'est parce que peut-être qu'il est amoureux d'une nana, qu'il a ce goût dans la bouche, mais on verra ça au cours de la BD. Voilà, donc si vous aimez les BD un peu bizarroïdes, avec des personnages pas forcément très sympas, ben voilà, ce goût, donc c'est le nom de la BD par Neyef Shiankama, est faite pour vous.
On s'excuse un petit peu, on essaie de régler le petit problème technique de ce côté-là. Donc, ne vous étonnez pas si on a des petits soucis, je vais dire, à recalibrer tout à suite de la chronique. Mais je vous rassure, Thomas est un immense professionnel. Malgré le fait qu'on va faire tomber un truc violemment pendant sa chronique, il ne va pas se démonter, il va la continuer. Ceci démontre d'un certain professionnalisme. C'est une BD qui est sortie, tu viens de parler, chez Ankama, et il est le Meyef est présent à Angoulême.
Oui, il sera en dédicace à Angoulême.
C'est sa première BD, il me semble.
Non, puisque son coup d'essai, ça avait été le Dofus Monster 4, c'était sur les Firefox, c'était aussi avec des crétins congénitaux et des personnages très antipathiques aussi, avec le même style de dessin, sauf que c'était au format manga. Donc on voyait déjà sa patte.
Accessoirement, est-ce que il y aurait d'autres auteurs de chez Ankama qui vont être révélés cette année lors du festival?
Alors révélés, si vous voulez savoir tout, donc il y aura plein de jeunes auteurs dont les premières BD sont sorties chez eux. Il y aura le collectif Brume qui est fait par un collectif de dessinateurs qui est édité chez Café Salink, donc plutôt des graphistes illustrateurs. Il y aura, je crois, la bande qui a fait... Alphonse Tabouret, je crois qu'il y sera pas. Sinon, il y aura tous les dessinateurs maison, la bande de Dofus, etc. Donc, on va peut-être passer à la BD suivante. Alors, attention...
Excuse-moi, vas-y.
Alors, cette fois-ci, c'est un ovni intégral qui s'appelle Nana Hux, tome 1, qui s'appelle Papa Nina. Et c'est dessiné et scénarisé par Jérémy L'Absolu, toujours chez Ankama. Et alors, le pitch est le suivant... Dans un futur lointain, les représentants de l'humanité vivent avec des crânes pour en tirer différents types de pouvoirs. WTW, Gros Ours et Chien de Chien sont membres du club des Hux, vénérant le pouvoir du crâne de Nana Hux. WTW cherche un moyen de supprimer le terrible Robespierre, l'assassin de Fouquet. Les deux petits nouveaux, Rose et Wu, feront sûrement l'affaire. Voilà, donc un scénario à coucher dehors, franchement impossible de résumer.
Oui, mais là je me disais, mais vers quoi tu pars là?
Et en fait, exhume la bande dessinée que j'ai apportée de dessous là, et essayez de la feuilleter tous les deux, vous allez voir, c'est un ovni.
Alors déjà graphiquement, c'est de l'encre avec du délavé en couverture, c'est du noir et blanc à l'intérieur, mais c'est vrai que graphiquement c'est...
Ah
c'est,
tu prends ta claque, graphiquement, si vous êtes graphiste ou si vous adorez un peu l'ambiance street... Urban Street avec des graffitis ou les jeux sur les textures et les matières, c'est vous allez vous en prendre plein la face.
Et donc, puis avec toute la finesse dégradée et tout ça, que les fanzines n'arriveront jamais à faire à la photocopie, c'est vraiment impressionnant de ce côté-là.
Oui, alors t'as aussi un jeu de trame, t'as mais mélange de plusieurs techniques, t'as des trames, t'as des crayonnés, t'as le collage de photos, les plaquages de textures. Après, vous pouvez attarder sur des détails, sur des images, la posture d'un personnage fait de graffitis, de papier découpé. Vous avez un mur en patchwork, une femme aux cheveux qui sont pas dessinés. dessinée, donc c'est en vide et en plein. Vous avez, en fait, chaque personnage est un univers à lui tout seul, sauf que là où le bas blesse, c'est que graphiquement c'est énorme, mais scénaristiquement on peut pas vraiment dire qu'on peut s'identifier au personnage, parce que le scénario, on hésite entre scénario à la Lynch, on va dire complètement dédalesque et labyrinthique, ou foutage de gueule intégral. On sait pas trop si le scénario, en fait, c'est le gars, il sait pas raconter une histoire, ou justement il joue sur le côté un peu fumeux, un peu confus, et que c'est vraiment sa patte. Alors c'était déjà le cas sur sa précédente bande dessinée qui s'appelait Metamuta, qui était une version, on va dire, un spin-off de l'univers de Mutafukaze, qui se passait avant l'aventure Mutafukaze et qui décrivait un petit peu l'enfance d'Angelino. On suivait un petit peu sa mère, alors c'était très introspectif, c'était on plongeait dans les méandres d'un esprit un peu malade. Et c'est vrai que là, cette histoire de science-fiction un peu futuriste, fumeuse, avec des personnages qui tirent leur pouvoir de crâne, alors t'as plusieurs castes de personnages, t'as des personnages qui vivent avec un crâne sur la tête, ça leur bousille un peu la tête, mais ça leur donne des pouvoirs un peu plus que les autres. D'autres, ce sont des gens qui réduisent des crânes à des poussières, et donc après ils mangent ces poussières de crâne. Alors c'est très 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 bizarre. On peut pas vraiment.
C'est une ambiance.
Ouais, on peut pas vraiment suivre un destin d'un personnage ou se dire tiens, est-ce qu'il va. On aimerait bien qu'il réussisse sa quête et tout. On sait même pas s'il y a une quête. Des personnages, les dialogues sont vraiment pas ineptes, mais vraiment décalés. Et puis franchement, t'as intérêt à être en forme pour lire la BD, parce qu'à un moment donné, tu décroches au bout de 10 pages, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc. Moi, franchement, c'est le graphisme qui m'a fait tenir. À vers la fin, tu vois que tous les personnages, les destins sont un peu entremêlés, donc tu vois qu'il y a quand même un semblant d'histoire, mais enfin, franchement, moi j'ai toujours pas choisi pour savoir si c'était juste génial ou si c'était juste du foutage de gueule. Voilà. Donc je interviewerai le gars donc à Angoulême, donc je lui poserai carrément la question, hein, savoir s'il a déjà un plan avant de faire sa BD, ou s'il met des dialogues au fur et à mesure, je sais pas. En même temps, est-ce qu'on va demander à Lynch comment il construit ses histoires? Donc après tout, c'est sa patte, on verra. Alors pendant que Xavier essaie de tabasser la table de mixage,
je la tabasse pas, j'essaie de rebrancher correctement les XLR derrière. Je vous jure.
Alors si le concept de cette bande dessinée imperméable ne vous a pas laissé de marbre, donc je rappelle les références. Nana Hux, tome 1, ça s'appelle Papa Nina, c'est scénarisé et dessiné par Jérémy L'Absolu, et c'est toujours édité chez Ankama sur le label 619.
C'est juste pénible parce que on n'arrive pas à trouver d'où ça vient, et c'est vraiment agaçant. Bon, j'ai pas la clé parce que ça m'est arrivé de souder des fois sous la table pendant que je faisais une émission. Et là, je vais avoir un petit peu de mal parce que c'est un dossier un petit peu lourd. Oui, merci. On va essayer de trouver. À mon avis, c'est un problème de masse qui circule sur l'allumage de la lampe et tout. Mais si je l'éteins, ça fait rien. Donc il faut que j'entre dans le logiciel de la table de mixage.
Tout. Dans le cambouis.
Comme d'hab.
Je mime le bruit. Je sais pas si vous entendez.
Toi, t'as vu Lane. Hein.
Ouais.
Thank you. ça faisait vraiment un longtemps que je souhaitais faire une rétrospective autour de la série Yoko Tsuno. La tâche n'est pas aisée, la série est protéiforme et son auteur ne s'est consacré qu'à elle depuis 40 ans, après une expérience qui était déjà assez solide. Né en 1933, Roger Leloup est passionné par l'aviation après avoir vu des combats aériens pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout en étant initié à la vulgarisation scientifique par la lecture des Sciences et Vie à une époque où le titre était réellement qualitatif. Sorti de l'Institut Saint-Luc, il est embauché par Jacques Martin comme assistant sur la série Alix en 1950. C'était pour le troisième, L'Île Noire. Il a aidé, je vais dire, à la maturité de la série sur le graphisme.
D'ailleurs, on remarque la différence par rapport aux deux premiers. On remarque tout de suite qu'il y a une légère différence, que le trait s'affine.
C'est immédiat. Pourtant, il a théoriquement travaillé que sur les couleurs. C'est ce que disent ses bio officiels.
Du moins
sur le troisième, mais je crois pas.
La couleur a empiété sur les lignes noires.
S'il nous écoute, après on va se faire flinguer. C'est ainsi qu'il mit un pied dans le studio RG, puisque je rappelle que Jacques Martin était un assistant d'RG à l'époque. Et Roger Leloup se dévoile particulièrement doué pour tout ce qui est mecha design. Ah bah oui, quitte à parler d'une héroïne japonaise, autant utiliser les termes du dessin japonais. Donc le mecha design, je rappelle, c'est tout ce qui est avion, voiture, train, robot. C'est lui qui dessine notamment la gare dans l'affaire Tournesol, puisque c'est une gare à verrière qui est assez détaillée à l'intérieur. Et il créa le design du jet privé de Karedas dans vol 714 pour Sydney, tout en faisant les décors et véhicules de la série Le Franc, qui est une série contemporaine à la différence d'Alix, donc ça aide beaucoup. Et je soupçonne qu'il était, il a fait partie d'un gag qui a été mené par Jacques Martin, puisque Hergé avait une production qui était extrêmement rare à l'époque déjà, et l'aventure suivante de Tintin, ce qui deviendra vol 714 pour Sydney, mettait beaucoup de temps, et donc pour déconner, puisqu'il y avait un journaliste de Paris Match qui devait voir le maître, ils avaient bricolé une planche complète, ancrée et tout ça, en deux nuits, avec un avion, etc. Il y a une scène qui ressemble, je veux dire, au jet justement de Karedas, et je crois qu'il y a les prémices dedans du gag du Sparadrap. Donc ça a vérifié, je n'ai plus en tête cette planche. Je pense que il avait réalisé cette prouesse avec quelques autres dessinateurs. C'est la preuve qu'à l'époque le studio RG travaillait déjà pratiquement tout seul. Mais bon, Roger Leloup assiste aussi Peyo sur sa série Jackie et Célestin, notamment sur une aventure qui ressemble furieusement à la future Araignée qui volait, que l'on retrouve dans la compilation Aventure électronique. Car Yoko Tsuno est prévu au départ comme personnage secondaire de Jackie et Célestin qu'il souhaitait reprendre. Elle volera finalement la tête de l'affiche, Jackie devenant Vic et Célestin, le maladroit, Paul. Une électronicienne, voilà qui change des reporters. Tintin, Le Franc. En décembre 1969, Dupuis accepte le trio de nouveaux héros dans les pages du journal de Spirou. L'occasion pour Leloup de quitter le studio RG à une époque où l'auteur de Tintin raréfiait les aventures du reporter. Yoko Tsuno suit des aventures contemporaines dans ses albums. Elle apprend l'informatique, est passée au portable, utilise Internet, elle a un blog. Vic Vidéo et Paul Pitron sont passés de la caméra de studio en noir et blanc 819 lignes au film 16 mm, puis à la caméra vidéo HF, au HI8, et je suis sûr que maintenant ils tournent à l'appareil photo. Une évolution continue, comme Blake et Mortimer du vivant d'Edgar Pierre Jacobs. Tiens, encore un auteur du studio RG. Mais en 1970, quand Yoko Tsuno apparaît, elle est très spontanée et extravertie pour une vraie japonaise. Inutile de dire qu'avec le recul, c'est une femme d'exception. Certains confrères jugent que Yoko Tsuno n'est pas japonaise. Faut dire qu'entre-temps, nous, critiques de la bande dessinée, nous nous sommes ouverts non seulement au manga, mais aussi à la connaissance plus générale de la mentalité de la société civile du soleil levant. Et que dans les années 60, quand une japonaise se retrouve prisonnière des martiens, d'un film de Inoshiro Honda, elle a plus tendance à s'évanouir sans un bruit, plutôt qu'à retourner l'intrus à terre avec une spectaculaire prise de judo et, une onomatopée issue d'une instruction sur une bouteille d'encre de Chine. Roger Leloup est un passionné de technique. En plus des aventures des trios de l'étrange, il animera des rubriques dans le journal de Spirou à une époque où le rapporteur n'était déjà plus présent. Donc dans le journal de Spirou, il animera des rubriques comme les chroniques et astuces sur l'aéromodélisme avec Paul Pitron en animateur, et sur le son, la hi-fi et la radio en général avec Décibel. Si Leloup écoute cette émission, à mon avis, il doit se marrer comme un bossu. C'est insupportable. En fait, Yoko Tsuno et ses compagnons vivent dans plusieurs univers en parallèle. Et plutôt que vous proposer une biographie dans l'ordre numéroté, ce que l'on a fait pour d'autres séries, je vous propose plutôt de découvrir les albums par les thèmes abordés. Yoko Tsuno est une électronicienne qui vit en Europe et qui rencontre Vic et Paul par hasard en soirée en opérant un test de pénétration pour mettre à l'épreuve un système d'alarme. Oui, c'est ce qui est interdit maintenant par la LSN, sinon 10 ans d'emprisonnement et tout ça. Elle se pose pas de questions, elle y va par une grue et puis déjà par électronique, elle fait des télécommandes et tout. Très vite, les trois se trouvent des atomes crochus en ayant le chic pour se fourrer dans des affaires mettant en jeu des technologies assez pointues. C'est dans la première des aventures électroniques, un recueil d'histoires courtes, qui est donc fondé le trio de l'étrange. C'est donc le premier univers, celui du commun des mortels, celui de notre planète. Dans l'Orgue du Diable, elle va rencontrer Ingrid, une organiste embrigadée dans un complot d'une sinistre partition. Dans Message pour l'éternité, Yoko, Vic et Paul font découvrir leur talent de pilote d'avion, lesquels seront sollicités par les services secrets pour récupérer des documents avant Julian Assange, mais peine perdue. La frontière de la vie sera le retour d'Ingrid, marquant le principe des personnages récurrents dans la sphère humaine de Yoko. Et où une intrigue médicale, doublée d'un mystère historique, montre que le cœur de Yoko a tendance à vite chavirer avec ses contreparties. Et c'est dans La Fille du Vent que le passé asiatique de Yoko remonte brutalement. On rencontre le père de Yoko, dompteur de tornades, et surtout sa némésis, Kazuki, homme d'affaires aux tendances militaristes. On aurait pu croire que la proie et l'ombre se déroulant en Écosse, des fantômes allaient amener une atmosphère fantastique. Mais c'est à nouveau la haute technologie qui sert à des dessins criminels, en l'occurrence la tourmentée Cecilia, héritière du château de Lock Castle. Dans Le Feu de Wotan, c'est sa ligne de CV concernant les services secrets britanniques qui vont l'amener à dompter la foudre et à la demande d'un homme d'affaires suisse. Tandis que dans Le Canon de Kra, une affaire d'armes de destruction massive va la catapulter dans un conflit à la portée géostratégique. Elle rencontrera le dragon de Hong Kong, monstre tout droit sorti d'une fiction, un conte émouvant où Yoko va adopter une petite chinoise, Rosée. Confrontée à un animal de légende, Yoko va se découvrir un instinct maternel. Elle sera embarquée par hasard dans l'Or du Rhin avec Ingrid, sans se douter qu'elle va à nouveau rencontrer Kazuki, mais aussi une sacrée brochette d'individus louches, dont la comtesse Olga, qui l'invitera à jouer une partie d'échecs dans le 7ème code, album étonnamment adulte où il est question d'alcool, d'armes nucléaires et d'une insupportable gamine de 14 ans, elle aussi aviatrice, Emilia. Mais néanmoins, la science-fiction existe aussi dans la sphère des humains, par la rencontre d'une fille venue d'un lointain futur. Yoko Tsuno va donc rencontrer Monia, venue d'un futur qui sera très vite révolu, parce qu'elle a une fantastique machine à traverser les siècles. C'est ainsi que Yoko se met à traverser la spirale du temps, rencontrant fortuitement un de ses ancêtres. C'est la grande particularité de cet univers. Partir dans le passé implique un danger terrible, celui d'altérer le présent. Dans Le Matin du Monde, Monia va entraîner les quatre aventuriers dans le Moyen-Âge de Bornéo, théoriquement avant que l'île ne soit ravagée par une éruption volcanique, mais malgré tout, Yoko va laisser une trace dans ce passé. Ce danger sera encore plus pressant à la rencontre de l'astrologue de Bruges, surtout quand les événements provoqués dans le passé entraîneront le début de l'aventure dans le présent. Une boucle infernale manque de se créer. L'étape suivante sera dans la Chine impériale, avec la jonque céleste et la pagode des brumes. Si les décors sont aussi enchanteurs, le risque est très grand quand on croit pouvoir ramener des ancêtres. Yoko a écouté son cœur, ne croyez pas que ça allait être dans de telles circonstances. Mais c'est surtout l'univers spatial et extraterrestre des Vinéens qui est le plus exotique et peut-être le plus connu de la série en soi. Je peux rien monter, c'est terrible. Donc, pour en revenir à Yoko Tsuno et les Vinéens, Vinéa, le nom vient d'une affiche de publicité pour un cosmétique délavé. Pardon, je précise, c'est l'affiche de publicité qui est délavée. Et comme la composante bleue était restée, ça a frappé la dyslexie du jeune Leloup. Une très longue amitié qui lie Yoko et Kani sera créé dans la série, même si celle-ci semble avoir encore bien des secrets. Et heureusement, la candeur de la jeune Poki est là pour désamorcer les ambiances parfois un peu sombres. C'est dans une grotte que le trio de l'étrange, dans l'album du même nom et premier de la série, dans une civilisation extraterrestre exilée sur notre planète, pardon, pas sûr, mais dans ses profondeurs. Dans la forge de Vulcain, leurs technologies se montrent terrifiantes, capables de dompter la lave au risque de provoquer du dégât à la surface de la Terre. Les enfants de Vinéa semblent régulièrement divisés en plusieurs factions, et l'arrivée d'une peau jaune parmi les bleus sera le catalyseur qui permettra de gagner une bataille qui lui échappe. Et il est temps pour les Vinéens de revenir vers leur monde. Pour les services rendus, souhaite faire découvrir à Yoko, Vic et Paul les trois soleils de Vinéa. L'occasion pour les Terriens de mettre un pied dans une autre galaxie, mais aussi de maîtriser davantage la fabuleuse technologie de cette civilisation. Mais la planète Vinéa n'est pas restée inoccupée entre-temps. Au tour des Vinéens de découvrir une autre civilisation sur leur terre natale, à savoir les Titans. Et la technologie très ancienne des Vinéens a beaucoup évolué suivant les planètes d'exil. Même très avancée technologiquement, elle n'est pas à l'abri d'un retour au mysticisme. C'est la leçon de la lumière d'Ixo, tandis que la découverte des archanges de Vinéa montrera que la guerre froide entre les cités n'est pas complètement morte. Parfois pour des raisons complètement obscures. Ni la version des Vinéens pour l'intelligence robotique que Yoko découvrira trop tard comme étant très empathique dans Les Exilés de Kifa. Elle ne sortira pas intacte encore quand elle découvrira les transferts d'esprit dans la Porte des Âmes. Mais toutes ces horreurs ne l'auront pas tenue éloignée bien longtemps de Kani. Maintenant que vous connaissez les trois univers de la série, il faudrait aussi présenter ceux qui sont ajoutés au trio du début et qui font partie commune à ces trois univers. Il y a Rosée du Matin, petite chinoise orpheline et dont le grand-père, juste avant de mourir, a souhaité en confier la garde à cette japonaise curieuse mais au cœur généreux. Il y a donc aussi Mick, né à Bruges au XVIe siècle, timide, déplacé au troisième millénaire. Alors ne parlons pas quand il s'agit de l'univers des Vinéens, mais amoureuse de Paul, ce qui devra amener de la sagesse à ce gaffeur. Et désormais Emilia, une jeune ado à la langue trop bien pendue, trop intrépide, mais aussi pilote, aussi bien de biplan que d'avion de tourisme. À noter qu'Emilia était une idée de série pour Roger Leloup, mais qu'il a sagement décidé d'intégrer dans le 7e code par peur de devoir abandonner Yoko Tsuno finalement. Mais le nombre de personnages gravitant autour de Yoko, Vic et Paul, sans compter les personnages récurrents à chaque univers de la série, font qu'il devient difficile de mettre en scène tout ce monde dans un même album. Mick, arraché au 16e, par exemple, est absente, mais revient pour le tome 26, en croire les esquisses qu'on a vues. Rosé est une gamine qui risque parfois d'être un fil à la patte à l'intrépide Yoko. Emilia, une insupportable ado qui met bien souvent les pieds dans le plat. Bref, Yoko, que les lecteurs connaissent déjà pour ses émois de l'âme, risque de ne plus oser faire un pas par peur de mettre en danger tout son monde. Alors, où se classe, dans ces trois principaux univers, la servante de Lucifer ? D'abord, il faut dire qu'on le sentait à l'étroit depuis plusieurs albums. Roger Leloup a tendance un petit peu des fois à avoir envie d'exploser les 44 pages cartonnées couleur qui furent la signature des éditions Dupuis. Cet album en fait 45 et une partie de l'histoire est expliquée dans les bonus de l'édition Luxe. Un petit peu frustrant. Heureusement, les personnages sont de leur époque. Emilia a un blog qui raconte certaines infos, notamment les raisons de leur installation en Écosse. Et alors là, j'en connais qui vont hurler. C'est parce que Yoko a aussi la charge d'Emilia, laquelle doit retourner au collège en Écosse, que la fille du vent reprend contact avec Cecilia, qu'on avait vue dans la proie de l'ombre, pour y trouver un point de chute. Ce qui tombe bien pour Cecilia qui cherchait un investisseur. Yoko avait hérité d'un portefeuille d'encombrantes actions légué par Kazuki, avec des parts dans les sociétés pas forcément en accord avec la conscience de l'héroïne. Cecilia en profite pour se montrer généreuse... Oui, parce que Yoko est riche dans l'histoire. Cecilia en profite pour se montrer généreuse envers son amie. Elle lui propose de vivre dans un cottage à côté du château de Log Castle. Or, ce château n'a pas révélé tous ses fantômes. Lors de la restauration de l'abbaye, une découverte a littéralement effrayé Cecilia, et on ne le saurait à moins. Une forme humanoïde, enfermée depuis des siècles et semblant toujours prête à s'animer à nouveau. Ce qui va profondément aussi troubler Yoko. L'automate à la peau bleue, et dans les vieilles pierres écossaises, elle va trouver la porte vers un autre plan de ses aventures, une base souterraine vinéenne. Car c'est la grande surprise de l'album La Servante de Lucifer, c'est le premier crossover entre les trois univers de la série. Non, ça a choqué personne, crossover, Yoko Tsuno qui finalement a une fortune. Je m'attendais à ce qu'il y ait un...
Non, si, on te lit, on t'écoute, hein.
Non, mais ça, je veux bien croire que vous m'écoutez. c'est quand on connaît la série depuis les origines, moi, si j'étais là, c'est... Ah
ben, je pense que j'ai dû lire un album de Yoko Tsuno quand j'étais petit. Mais j'en ai lu qu'un en fait, ça je sais, je m'en souviens plus.
Oh punaise.
Bah oui, je sais. Attends.
Heureusement que j'ai pas prévu le quiz. Hein.
Non mais c'est rigolo parce que tu vois, je te démontre toutes les séries en fait. C'est... Alors j'ai jamais lu de Valérian, j'ai jamais lu de Cosimo.
Toute une culture à reprendre. Ça. D'un autre côté, il y a quand même un hic puisque les 40 ans de Yoko sont passés inaperçus. Point d'opération de communication, point d'hommage chez Dupuis, sinon les intégrales qui regroupent les aventures de Yoko Tsuno par univers, un peu comme on l'a fait, un peu vide. Cette série reste pourtant une valeur sûre. Dans tous les cas, il faut saluer Monsieur Roger Leloup. C'est le 25e album de la série, sans compter le roman La Genèse de Yoko, plus un autre roman de SF qu'il a fait en 89. Et il est bluffant de voir que son trait ne bouge pas. Il a quand même 78 ans. Et à l'exception de la colorisation, eh ben, il travaillait toujours sans aucun assistant. Prenez l'album, son trait est détaillé, précis, clair, la documentation, on sent qu'elle est abondante et qu'elle est absolument fine, respectée, et la mise en scène est limpide. Par exemple, vous avez, on devine très bien que Yoko Tsuno a un Nokia 3350, la Mini Austin, on peut préciser exactement le modèle et la série limitée dont il est question. On est bluffé quand on la regarde à la loupe. Faut dire que avoir eu comme patron Jacques Martin, Hergé et Peyot, il y a quand même beaucoup moins bien comme école. Si j'ai pu voir très rarement un problème sur certains regards dans les précédents albums, à vrai dire, la seule erreur graphique de celui-ci, de La Servante de Lucifer, je l'ai relevé page 26, planche 24, cinquième page, et c'est une erreur de colorisation, donc même pas du fait de Leloup. C'est bluffant. Là, il y a du sport, il fait E. Parce que après, il y a de la texturisation, il y a vraiment du trait partout, d'une finesse absolument incroyable. Ouf. c'est de la ligne claire à ce côté le plus moderne, je vais dire, du dessin technique absolu. Rien que les hachures sur les dragons, les écailles et tout ça sur la couverture, c'est impressionnant. Mais l'édition luxe reprend les crayonnés, il y a franchement une raison. Que les crayonnés sont encore plus détaillés, c'est hallucinant. T'as les ombrages et tout, et tu restes.
Mais à 78 ans, sa main ne tremble pas, c'est ça?
Ah mais tout à fait, tout à fait. Tu peux surtout que c'est lui qui fait les ancrages, donc tu dis ouf.
Ouais, parce que les ancrages, bon bah après c'est dans le pur style BD franco-belge, mais c'est nickel quoi. En fait.
C'est y a rien à dire, c'est d'accord, ok. Alors j'ai cru comprendre. Ce que m'a dit un espion, c'est qu'il a tenté de se mettre à l'informatique, mais en fait, il a juste fait pour faire une comparaison pour son blog. C'est qu'est-ce que ça donne quand c'est ancré. Donc, en fait, il a ancré informatiquement et fait les couleurs, mais c'était juste pour faire un test.
Oui, attention, le monsieur a 78 ans et il a un blog.
Plusieurs. je vais y venir.
Ah, pardon.
Mais enfin, plus exactement, il en a plusieurs. Il y a le blog de Yoko Tsuno, il y a le blog de. D'ailleurs, non, il n'y a pas le blog de Vic Vidéo et de Paul Pitron. Je m'attendais à ce que Vic en fasse un. Ou Paul, au moins, parce que c'est le grand spécialiste de l'électronique. Il y a le blog de. Mince. de Cecilia, il y a le blog, non, pas Cecilia, je dis, si, il y est, il y a le blog de Ingrid, il y a deux blogs même, il y a un blog sur ses aventures et un blog sur les musiques, sur les inspirations. Roger Leloup, d'ailleurs, en profite pour donner un lien vers une musique de Jean-Michel Jarre qu'il a beaucoup marqué. Il y a un ange qui arrive. Je vous le laisse découvrir dans cet album qui a son propre blog et qui sert en fait, qui raconte en fait les états d'âme de Rosé. C'est impressionnant. C'est bon, il a commencé il y a 3 ans. Il y a une vingtaine de billets pour chacun des blogs. C'est illustré avec soit des cases de la série, soit des excibris, soit des crayonnés. Mais c'est une mise en situation qui est vraiment impressionnante. Je veux dire, à partir de là, la série prend vraiment une profondeur multimédia étonnante. Qui de ce côté-là,
c'est bien,
ça laisse pantois. C'est-à-dire que jusqu'ici, on les avait dans les éditions luxe des albums, à condition de pouvoir se les payer, etc. Ou dans les pages spéciales que faisait le journal de Spirou sur la sortie du nouvel album. Et ben là, on peut les consulter en ayant acheté l'album normal. C'est un bonheur.
Non, je disais, ça se trouve, je me trompe, mais c'est marrant parce que généralement, enfin, je généralise un peu, mais ce qu'il y a de rigolo, c'est que les gens qui sont fans de ce type de BD ne sont pas forcément les gens qui vont aller voir des blogs sur Internet. Et
va dire ça aux lecteurs d'Actua BD, je crois que tu vas te faire flinguer.
Non, mais après, bon voilà, c'est les gens qui sont pointus.
Oncle François est de retour dans les commentaires, fais gaffe. Hein.
Oui, non, mais après, c'est vrai que les gens qui pestent un peu contre les blogs BD en disant oui, c'est pas du tout comme on faisait avant, la BD d'avant c'était mieux, c'est vrai que c'est plutôt les gens qui vont spontanément peut-être lire du Yoko Tsuno, justement, donc c'est rigolo, mais après moi je généralise, il y a aussi des gens qui sont les deux pieds de chaque côté, hein, mais
enfin, voilà. Sachant que c'est une série quand même qui est profondément une série pour adolescentes, c'est une science-fiction, je vais pas dire naïve, hein, il y a quand même des choses qui sont relativement tragiques, mais je veux dire, les héros s'en sortent toujours bien, il n'y a pas d'histoire vraiment glauque, je veux dire, c'est cadré, taillé, etc.
Ouais,
journal de Spirou.
Elle perd pas un bras, c'est pas crevé d'œil, quoi.
Voilà, y a pas des histoires de viol ou tout ce que l'on veut derrière. Ça reste nickel. Il y a des morts, il y a des suicides, mais je veux dire, ça reste tout à fait présentable. Hein. On peut le mettre dans les doigts du petit gamin de 6 ans que j'étais quand je l'ai découvert. Il y a aucun problème de ce côté-là. Il recadre un peu, c'est-à-dire l'introduction, du personnage de l'adolescente. Je l'ai perdu de mémoire de nom, c'est malin, tiens. Emilia, qui touche là où il faut pas toucher, qui envoie les remarques qu'il faut pas ou qui dit des choses qu'il ne faut pas dire. C'est peut-être ce qui relance un petit peu la série de ce côté-là, mais ça reste une BD pour ados, une BD familiale entre guillemets, cadrée, pas de souci. C'est absolument nickel. D'un autre côté, Roger Leloup, de ce cas de 40, 4 planches couleurs cartonnées, etc. Il en est à l'étroit, mais il ouvre tout plein de pistes. Des fois, ça va un petit peu vite sur la fin de certains albums. On sent qu'il aurait aimé en dire un petit peu plus, et on sent que... Il...
Merde, il reste pages, merde.
Bah, non, 44. Comme par exemple, on a des pistes, comme par exemple un rapace qui aurait déjà vu Yoko dans, à la fin de l'astrologue de Bruges, un bijou qui aurait un drôle de pouvoir qu'elle se retrouve héritée par hasard, un dragon qui l'attend dans la nuit. Alors c'est à comparer avec l'avant-dernière période de Valérian avant la trilogie de clôture, où Christin et Mézières n'introduisaient pratiquement plus de nouveaux personnages ou plus de nouvelles races ou de nouvelles planètes, mais ne faisait que recycler leur univers. Roger Leloup, lui, il n'arrête pas de créer. C'est étonnant. Là encore, on a une grande surprise. Il y a des idées qui sont assez géniales, je dois avouer, et qui relancent bien la série. Alors, est-ce que ça veut dire que Roger Leloup prépare plein de pistes pour exciter l'imagination de ses successeurs ? Que deviendra la série quand l'auteur rejoindra d'autres étoiles? Et bien la réponse, on l'a sur le site officiel yokotsuno.com, qui est animé par Dupuis, mais je soupçonne que c'est Roger Leloup lui-même qui répond, puisque on peut poser des questions à Yoko Tsuno et Yoko répond. Alors il y a cette c'est la rubrique Allo Yoko, et la première question qui est actuellement en ligne, enfin la plus récente qui est actuellement en ligne: cher Yoko, toi qui es immortel, mais malheureusement Roger Leloup ne l'est pas. Quel sera ton avenir le jour où il aura au paradis des dessinateurs géniaux ? La réponse : je ne suis pas nécessairement immortel, et ce n'est pas spécialement l'auteur qui, en disparaissant, amène la fin des aventures d'un personnage. Sa survie dépend beaucoup aussi de l'éditeur, mais une chose est certaine, l'auteur emmène avec lui l'âme de son personnage, et aussi bonne soit la reprise, ce n'est souvent que commercial. Hergé n'a jamais tué Tintin, sa non-reprise est une volonté de ceux qui en ont hérité. Je rappelle quand même qu'il a bossé dans le studio Hergé, donc il connaît à mon avis l'individu. C'est facile de faire porter le chapeau à celui qui ne peut plus en parler. Il ne faut pas dans la vie prévoir la disparition d'un autre, car cet autre peut très bien venir à votre enterrement. C'est pas gay, hein. Quand il dit ça, on se dit il a dû avoir un drame personnel à 78 ans, il a dû voir partir des amis. Ce n'est pas moi qui ai lancé le sujet. En attendant, je suis toujours là et rouge sorte que j'y sois encore plus, que j'y sois encore le plus longtemps possible. Lorsqu'on laisse derrière soi plus de 24 albums, on survit pour ceux qui aiment les relire. Amitié, Yoko. C'est là où on se dit, ça surprend quand même, hein, comme réponse. Mais d'un autre côté, c'est... On se dit, ok, peut-être qu'il va le continuer. Il se trouve que Charles-Louis de Touré, qui est rédacteur à Actua BD, dont on est partenaire et tout, je l'ai appelé pour avoir quelques confirmations, parce que c'est un grand fan de la série. Et surtout, il sort d'une interview de 6 heures, qu'il va devoir piger, avec Roger Leloup, qui, à ce qui paraît, est un conteur formidable. Il adore discuter, surtout que c'est un grand monstre technique. Je pense que ça doit être absolument passionnant de discuter avec lui. On m'a proposé de l'appeler pour l'émission... Heureusement, sinon il serait foutu de notre gueule avec le buzz que l'on a derrière, là, le gros hum. J'imagine quand même que il a des raisons. Il a dit après moi le déluge, ce seront ses héritiers probablement qui vont décider. Peut-être qu'il va changer d'avis, qu'il va se dire je voudrais bien que ça soit un tel qui continue, etc. Mais ça n'est pas du tout dans son ordre d'idée. Il est bien parti pour continuer. Il y a déjà les planches du 26e tome crayonnées qui sont disponibles, dispersées sur les blogs. Donc on sait qu'il y aura une suite.
Oui, en gros, il dit c'est pas à lui de décider si le personnage doit mourir avec lui. Lui,
il continue tant qu'il peut.
L'esprit, voilà, de la BD, mais après, ils en foutent, quoi. C'est
voilà, exactement. Ouais. Il est là pour faire vivre des histoires merveilleuses. Et puis voilà, Yoko Tsuno a 40 ans et c'est pas là qu'elle va s'arrêter. Je vais dire.
Comme quoi, les Japonaises ne font pas leur âge.
Celle-là, j'aurais dû venir attendre, mais elle est pas mal. Je te réserve un bon point là. Elle est très 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 bien. Donc il était question en 2004 d'une adaptation en série animée par Marathon. Je l'ai lu par hasard sur le forum de Katsuka. J'ai essayé de joindre Katsuka, j'y suis pas arrivé pour l'animateur du site là-dessus sur le sujet. On va reparler tout à l'heure de Katsuka, même s'il est 12h50. Où Yoko Tsuno n'était plus japonaise. Il y a un trailer et des tests qui ont été animés. Je crois qu'on a évité le pire.
Marathon, ils ont fait quoi déjà avant
Les... Mince, les...
Valérian ? Non, c'est pas eux.
Non, c'est pas eux. Ça, c'était c'était Luc Besson. Ben la série la plus connue qu'ils ont faite, c'est les trois. Ah mince, ils étaient partis de la franchise des Spice Girls et ils ont fait
Totally Spice.
Totally Spice, voilà.
Ah bon, c'est pas mal.
C'est
très loin de Yoko Tsuno, ceci dit.
Mais quand tu vois l'adaptation, par exemple, qui passe sur M6 de mince, comment ça s'appelle à ce héros italien?
Martin Mystère.
Voilà, Martin Mystère, qui l'ont transformé en ado, qui vit dans un collège et tout. Alors Martin Mystère est adulte hein, quand même au départ dans la série. Tu te dis
Non mais bon voilà, il faut dire
c'est,
la série
c'est
animée,
très sympa.
La série très
bien
est très bien quoi, y a pas
mais
problème,
elle aurait
hein.
pas dû s'appeler Martin Mystère à mon sens. Moi ça m'aurait fait un petit peu chier quoi.
Martin Mysterio.
Ouais mais là tu vois c'est un italien enfin il a un peu italien dans l'âme parce que il fait un peu tout et n'importe quoi, c'est un gros gaffeur et tout. La série est très bien, l'animation est nickel, les scénarios sont c'est du scénario à l'emporte-pièce, des scénarios aussi alambiqués que Yoko Tsuno. C'est pas du tout le même niveau mais Marathon c'est une très grosse boîte donc ils ont fait beaucoup de choses. Mais je pense qu'on a vraiment loupé le piège. Tiens, à remercier quand même Charles-Louis de Tour, hein. Désolé de pas te voir camarade
de tournée.
Tu lui offriras au moins une ou deux bières belges de ma part.
Bah, il vient de Belgique, je vais pas lui offrir des bières belges d'Angoulême.
En tout cas, je le remercie énormément pour les confirmations. Donc, Yoko Tsuno, la servante de Lucifer, est sortie depuis novembre dernier chez Dupuis. Et pour le coup, en interruption musicale relativement longue, hein, parce qu'il est tard. Je vais mettre un truc absolument insupportable. Je suis désolé, c'est une balade irlandaise. C'est pas un truc écossais. Dance with the devil. Le deuxième mix de Digi Jones, c'est extrait du Halloween Booty, oh. Qui est une compilation de mashup.
Greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist.
Better to reign in hell than serve in heaven, is that it?
Why not? I'm here on the ground with my nose in it since the whole thing began. I've nurtured every sensation man has been inspired to have. I cared about what he wanted, and I never judged him.
All right now, boys and girls, we've got another story for you now. We want to introduce to you another friend of the Bible.
I'm the D-E-V, I'm the D-E-V-I, I'm the D-E-V, I'm the D-E-V-I, I'm the D-E-V, I'm the D-E-V-I, I'm the D-E-V-I, hell.
Sewing on the fiddle and playing it hot. And the devil jumped up on a hickory stump and said, boy, let me tell you what. I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too. And if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you. Now you played pretty good fiddle, boy, but give the devil his due. I bet a fiddle of gold against your soul is how bitter. The boy said, my name's Johnny, and it might be a sin, but I'll take your bet, you're gonna regret, cause I'm the best it's ever been.
Johnny, you're rising up your clothes.
Get your soul. Now, 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 now. Now, the devil opened up up his case and he said, I'll start this show. And fire loosened his fingertips as he rosined up his bow. And he pulled the bow across the strings and it made an evil hiss. And then a band of demons joined in and it sounded something like this. Sit down in that chair right there and let me show you how it's done. Fire on the mountain, run, boys, run. The devil's in the house of the rising sun. Chicken in the bread pan, pick it out, though. Ready to don't bite, no chano.
The devil.
The devil bowed his head because he knew that he'd been beat. He laid that golden fiddle on the ground at Johnny's feet. Johnny said, devil, just come on back if you ever want to try again. I done told you once, you son of a bitch, I'm the best there's ever been. He played fire on the mountain, run, boy, run. Devil's in the house of the rising sun. Chicken in the bread pan, picking out dough. Better when you don't fight, no child, no.
Le Devil Mix de Digi Jones, extrait de la compilation de bootleg Halloween Booty. Donc je rappelle le principe du bootleg, c'est on prend plein de morceaux différents et on essaie d'en faire un nouveau. C'est du postmodernisme, suivant nos amis des Malpolis. Voilà, et maintenant la masse c'est sur mon ordi. Putain, mais c'est insupportable!
Putain, il est 13h!
Il est 13h! C'est le supplément week-end et le rubrique cinéma commence avec deux films!
Alors, on commence par du vert ou par du vert?
Bah, on commence par du vert.
Avec de l'insecte ou avec des petits êtres?
Allez, c'est un insecte.
D'accord, allez, on commence avec un frelon donc, The Green Hornet.
Non.
De Michel Gondry, avec attention le casting: Seth Rogen, Cameron Diaz, Jay Chou, Christoph Waltz, Edward Furlong, Edward James Olmos, James Franco.
Ah, et à ce qui paraît, il y a aussi un petit Bruce qui cartonne.
Non, mais ça c'était dans la précédente adaptation, puisque à la base il s'agit d'un feuilleton radiophonique, d'après ce que j'ai entendu. Alors voilà, Britt Reid est l'héritier de l'Empire Reid, qui est propriétaire, entre autres, du journal Daily Sentinel. À la mort de son père, et découvrant la palette surprenante des capacités de son assistant Keto, il décide de se transformer la nuit en un super-héros d'un genre particulier.
Bruce, hein ? Non, l'autre, oui. Wayne.
Alors, le genre particulier, c'est se comporter comme un bad guy afin de tromper les vrais criminels. Le frelon vert est né, sauf que il va avoir les criminels à ses trousses, plus les flics. Et comme c'est pas un grand intelligent, il va se foutre un peu dans la mer tout seul. Enfin, heureusement, il y a Keto à côté. Bon. Alors, est-ce que ça vaut le détour? Alors, bon, déjà, il y a des allusions de Xavier. Donc, pour ceux qui auraient vécu dans une déserte et qui seraient pas du tout au courant, donc le frelon vert à la base, donc c'était un feuilleton radiophonique, c'est devenu une série télé qui a lancé donc dans le rôle de Keto un certain Bruce Lee.
Enfin, plus exactement, les réalisateurs avaient dit: ouais, tu fais quelques mouvements, etc. Et là, Bruce Lee, bah, il pratique, donc il fait vraiment les mouvements, à limite d'ailleurs de foutre des coups des fois aux cascadeurs. Et ça a tellement surpris que même c'est ça qui avait popularisé le feuilleton, c'est qu'il y avait des vrais mouvements. C'était pas comme les The Man from the Uncle et autres séries, je vais dire, par exemple, justement Batman. C'est que il y avait vraiment de la castagne.
Et alors là, il faut signaler que Van Williams qui joue le Green Hornet dans la série fait une apparition dans la série Batman à un moment, en tant que Green Hornet.
Oui, mais il y a un crossover.
D'accord. Alors là, justement, l'intérêt du film, c'est que, justement, il n'y a pas le héros invulnérable qui décide de tout et son petit sidekick qui fait juste l'accompagnement. Là, c'est plutôt les rôles sont inversés. C'est-à-dire que c'est le héros qui est un peu bêta, qui a les sous, il a juste le pognon, le mec, et en fait, c'est l'autre qui a le talent. Donc l'autre, il fait bien le café, il réfléchit. Il a toujours plutôt dans son sac, c'est lui qui fait tous les gadgets, c'est lui qui se bastonne, c'est lui qui le sauve de la merde. En fait, le frelon vert, il sert à rien, juste. Voilà, c'est ça. Sauf qu'il a le charisme. Et alors voilà, justement, mais le truc là, dans le fil rouge du film, c'est la collaboration entre les deux. C'est pas du tout le frelon vert et le sidekick, ou le sidekick et le frelon vert, c'est les deux. Donc justement, le fil rouge, c'est plutôt deux gars qui se trouvent l'un l'autre, en fait. Donc au départ, le Brit, il demande à Keto, bon, ouais, c'était quand même un sale con, mon père. Ouais, c'est vrai, c'était un employeur un peu, c'était un sale con aussi. Ouais, qu'est-ce que tu dirais, on se maquille et puis on va aller décapiter la statue de mon père. Ouais, ouais, on va faire ça. Donc, première mission qu'ils font en tant que frelon vert, ils vont décapiter la statue. Donc, ça donne un peu l'esprit, une idée de l'esprit du truc. Après, ils vont s'apercevoir. Alors, le truc rigolo, c'est que Cameron Diaz joue l'assistante donc de Brit Reed, puisque lui, il décide, tiens, je vais mettre la main sur le journal, je vais essayer de monter en épingle l'affaire du frelon vert, alors qu'au départ, tout le monde sait que c'est un bouffon. Et donc, il va imposer au rédac chef et tout de parler du frelon vert, pas le bouffon, attention.
Ah bon.
Bouffon, c'est autre chose. Voilà. Et donc, il embauche justement l'assistante qui est experte en criminologie, Cameron Diaz, qui est une profileuse de génie et tout, et il lui dit, d'après vous, ce criminel frelon vert, qu'est-ce qu'il va faire après? Prends des notes, toi. Eh ben, à mon avis, il va plutôt se friter au criminel et tout. Ouais. Et donc, il va faire ça. Ouais, il faudrait qu'on fasse. Et après, justement, c'est elle qui va donner leur programme, même volontairement. Il va dire, ouais, on va suivre, c'est dans l'ordre des choses. Donc voilà, ils sont incapables d'avoir des idées tout seuls. C'est juste des guignols. Alors c'est rigolo parce que quand on connaît un peu Gondry, quand on a suivi un peu ce qu'il avait fait avant, Soyez sympa, Rembobiné, justement avec les films suédois, on sent que c'est toujours quelqu'un. Alors c'est quelqu'un toujours qui est passé pour un attardé. C'est un gars qui fait ses petits films dans son garage.
Enfin, doux rêveur quoi.
Voilà, c'est un doux rêveur et donc
avec beaucoup de pognon.
Voilà et beaucoup d'idées et il filme des doux rêveurs aussi. Alors dans Soyez sympa, Rembobiné, c'était deux losers aussi qui avaient démagnétisé sans faire exprès des cassettes et qui se découvraient un talent pour mettre en scène des films avec 3 francs 6 sous. Et là c'est pareil, c'est deux pas des abrutis, mais deux gamins partenaires de jeu. Ils sont tous les deux amoureux de la même femme. Ils se découvrent un ami chacun, puisque avant c'était les solitaires. Lui, il était super seul, et puis Keto, il savait qu'il avait des capacités, mais il faisait tout dans son garage, et puis il en faisait rien. Chacun a besoin de l'autre et chacun nourrit un complexe par rapport à l'autre, puisque Brit il nourrit un complexe parce que lui il a aucune idée, c'est l'autre qui fait tout, et puis l'autre il est dans l'ombre de l'autre parce que c'est lui qui est la façade en fait. Alors justement il va y avoir un esprit de compétition et un esprit de respect mutuel, donc voilà, ça va être, ils vont se chamailler pendant tout le film en fait, mais se chamailler gentiment, plus ou moins méchamment et tout, et
se vannent quoi.
Ce van, ça dépend, c'est un système de van assez particulier, puisque au départ ils vont se dire, ouais, c'est génial ce que t'as fait, ouais, t'as vu, c'est moi qui ai vaincu le criminel en lui balançant des coups alors qu'il était à terre, ouais, c'est surtout moi qui l'ai mis à terre, quoi. Voilà. Ensuite, la critique qui venait sur ce film, c'est que, c'est du film de Michel Gondry, si ça avait pas été du Gondry, est-ce qu'on l'aurait vu? On voit un peu, bon, c'est quand même super aseptisé parce que c'est quand même un gros film de studio avec des super-héros, des effets spéciaux partout, mais on voit quand même que des effets visuels, on reconnaît un peu la patte Gondry qu'il avait déjà.
Tu veux dire qu'il fait super bien le carton-pâte en 3D?
Alors, c'est pas vraiment la patte carton-pâte, si on peut appeler ça comme ça, mais plutôt des effets visuels qu'il avait déjà expérimenté, des trucages dans ses clips. Par exemple, on a, souvenez-vous du clip Sugar Water de Cibo Matto avec le plan séquence sur deux parties.
Donc alors, c'est un groupe japonais, c'est un duo de japonaises, plus exactement. Voilà, et en fait le film est tourné en une seule fois et l'écran est splitté en deux verticalement, et d'un côté on a dans un sens et de l'autre dans l'autre sens.
Voilà, l'une des deux images est inversée, et enfin dans la vitesse. Et donc là on voit à un moment donné dans le film un plan séquence qui devient une multitude de petites vignettes avec justement les méchants qui essaient de traquer le frelon vert en sachant qui c'est et tout. Alors chacun va demander à ses indiques et tout, et puis c'est un énorme plan séquence qui est divisé en plusieurs fois, et donc à chaque fois une caméra différente va suivre l'un des seconds couteaux du méchant, et c'est techniquement c'est super bien fait. On a aussi pour montrer à quel point Keto est super fort, il va avoir des trucages visuels qui va découper l'image et l'action pour figer le temps, un peu comme dans le clip des Chemical Brothers, c'était Let Forever Be. Let Forever Be. Alors c'était justement des escalators qui étaient divisés avec une nana qui était figée, qui revenait.
Ah celui-là je l'ai pas vu, oui, parce que c'est vrai que j'ai Director voilà, Collection, ben, mais il y est pas dedans.
Si il y est.
Il y est.
Oui, c'est une nana en fait qui se maquille chez elle, l'image devient comme un kaléidoscope en fait. Et donc là, tu as cet effet kaléidoscope sur les voitures quand il y a Keto qui dit alors lui il a un tournevis, je vais m'en servir pour frapper lui.
Ah, celui qui est tourné en vidéo et au bout d'un moment il y a le miroir qui arrête pas de changer, éléments qui changent de taille.
Voilà, c'est ça. Et donc là, on retrouve ce trucage visuel dans le film. Donc on voit un peu la patte de Gondry quand même à travers certains effets. Ils sont pas trop gratuits, mais on sent que le mec il s'amuse quoi. Et toi aussi tu t'amuses parce que tu dis ouais, c'est rigolo, c'est pas juste de l'effet numérique avec des trucs en 3D. Non, il s'amuse. Ensuite, on a au niveau du casting, bon, c'est béton. Alors, tout le monde dit Christoph Waltz, après Inglourious Basterds, il nous campe encore un mafieux super bien. Il en fait vachement trop quand même. C'est un mafieux russe. Alors, il a encore un accent à couper au couteau. Alors, moi, j'ai vu le film en français, c'est déplorable. Parce que
comme tous les films en VF.
Bah oui, mais parce que par exemple le méchant.
Parce que sinon t'es obligé de le voir en VO en 3D et le sous-titrage casse les yeux.
Ouais, et puis il y a aussi. Alors il s'appelle Trognowski. Alors il y a un gars récurrent dans le film, personne n'arrive à dire son nom. Alors à un moment donné, il se rend compte que le Green Hornet est plus populaire que lui. Donc lui, il va essayer de prendre la couleur rouge. Et il va demander à ce qu'on l'appelle Blotnowski. Sauf que en français, ils l'ont traduit par Hémoglobin. Ski. Ouais. Ouin.
Aïe.
Voilà, ce qui a un peu rien à voir. Alors imaginez la synchro labiale.
Je serais curieux de voir comment ils l'ont traduit dans le comics. Puisque le comics existe depuis un bail.
Ouais. Alors voilà, au niveau du casting, voilà, il en fait un peu trop Christoph Waltz. On a un Edward Furlong et tu dis mais pourquoi ils ont pris Edward Furlong c'est vraiment un second couteau qu'il fait, c'est juste un pauvre fabricant de drogue à un moment donné qui s'est rétamé en 5 minutes.
Ah bah là il est dans son élément.
Ouais, c'est ça.
Oh non.
Ben si.
Après t'as un James Franco.
Non mais j'adore ce mec, hein, moi je trouve que c'est un excellent acteur, mais bon il a des problèmes personnels récurrents.
Oui mais justement.
Ensuite on a donc Edward James Olmos. Donc il incarne le patron du journal, mais il est méconnaissable, il a pris quelques kilos au niveau des joues. Alors je me suis dit, mais je le connais ce type, et à la fin tu vois Edward James Olmos, c'est pas vrai. Alors voilà, tu le reconnais un petit peu. Tu as aussi James Franco, donc James Franco c'était le fils du bouffon vert justement dans Spider-Man, qui devient aussi le second bouffon. Et donc là il incarne juste un patron de discothèque un peu roublard qui a un duel avec Christoph Waltz au début, et puis tu dis, ouais c'est bon, il peut pas crever. Ah bah si, en fait il fait une apparition de 5 minutes, histoire de faire une énorme tirade, et puis il se fait dégommer. Bon, voilà, ils se sont fait plaisir au niveau du casting. Alors voilà, le film, bon voilà, c'est quand même un excellent moment, ça te fout la banane, tu passes un bon moment, mais c'est pas non plus un chef-d'œuvre. C'est un film évidemment avec une fin très ouverte.
Attention, suite.
Ouais, voilà. C'est pas vraiment des abrutis. C'est des gars qui sont pas niés non plus, mais ils sont un peu limités. C'est deux sales gosses qui s'amusent comme ils peuvent. Il y a toujours la blondasse au milieu, certains poncifs de ce film de super-héros. C'est un film qui a pas de cynisme. Il n'y a pas d'ultra-violence non plus, il n'y a pas de blague du meurtre non plus. C'est un bon film de super-héros à l'ancienne, c'est-à-dire au très premier degré, avec du plein de côtés jubilatoires. Voilà, donc on aurait tort de passer son chemin si vous voulez, si vous êtes fan de films de super-héros et que vous en avez pas marre, voilà. Précipitez-vous sur The Green Hornet de Michel Gondry, avec Seth Rogen et Jay Chou. Et voilà, c'est un bon film.
Est-ce que tu as essayé de voir dans combien de salles il est projeté, s'il est disponible en VO du coup?
Alors moi, je ne l'ai pas vu en VO, ça c'est sûr.
Ouais, ça c'est...
Non mais je ne l'ai pas vu parce que sinon, si je l'avais... j'avais vu qu'il était programmé en VO, j'y serais allé. Mais peut-être
d'accord,
qu'il est dans
okay.
certains cinémas en VO, mais...
Ok...
Ah, mais je t'avais apporté un morceau d'ailleurs.
Oh, punaise!
Faut tout lui dire.
Ouais, ouais, pourtant c'est marqué en plus.
C'est marqué. Allez, c'est le morceau numéro 8. Ça, ce morceau vous dira peut-être quelque chose parce qu'il a été recyclé par quelqu'un d'autre, mais il est effectivement tiré de la précédente adaptation de Green Hornet.
Je me suis fait avoir par la fin.
Dernier mot sur The Green Hornet, donc ça c'est la musique du film. Oui, vas-y, du sport.
Non, je voulais dire à propos de la musique est signée de Al Hurt, mais l'interprétation est de Nelson Riddle et son grand orchestre. Nelson Riddle qui a été un type qui a été le chef d'orchestre de Frank Sinatra, début des années 60, quand Frank Sinatra a laissé tomber Count Basie. Et Nelson Riddle a signé également une autre BO de série dont je n'arrive pas à remettre le nom dessus, mais je la retrouverai pour la semaine prochaine.
D'accord. Allez, maintenant,
allez,
on toute part,
autre ambiance, ouais.
Voilà, on part sur totalement autre chose avec du dessin animé japonais, cette fois-ci avec Arrietty, le petit monde des chapardeurs, qui est donc le nouveau long-métrage d'animation des studios Ghibli et qui est réalisé par un inconnu dont le nom ne vous dira rien, qui s'appelle Hiromasa Yonebayashi. Voilà, j'y suis arrivé. Alors, dans la banlieue de Tokyo, à la campagne, le jeune garçon Sho vient se reposer avant de subir une importante opération au cœur. Divers objets et nourriture disparaissent régulièrement, chapardés par Arrietty et son père, des petits êtres vivant sous la maison. Voilà, donc vous aurez peut-être reconnu l'histoire The Burrowers, écrite par Mary Norton dans les années 50.
Qui a été adaptée en dessin animé dans les années 80,
ouais, ouais.
Très librement.
Voilà, il y a eu les mini-pousses aussi.
Bah oui, c'est ça.
Ah ben voilà. Il y a aussi eu le film Les Burrowers avec et le gros, là, comment il s'appelle, John Goodman. Ouais. Et alors,
C'est un projet qui est en plus traîné chez Ghibli depuis plus de 15 ans.
Depuis 40 ans. Miyazaki voulait déjà l'adapter avant. Il a développé le scénario. C'est lui qui a écrit le scénario. On reconnaît la patte de Miyazaki toujours, puisqu'on voit le caractère design, c'est du Miyazaki tout craché. Le réalisateur est un nouveau, puisqu'il a 36 ans seulement. Il était réputé comme l'un des meilleurs animateurs du studio. Et comme Miyazaki et Takata se font vieux, ils se sont dit tiens, on va lancer des petits jeunes. Donc ils ont pensé à lui.
Je tiens à signaler qu'il y a une excellente interview qui a été réalisée par Katsuka, donc le forme d'animation pour la chaîne No Life, et qui a été repris dans Libération du réalisateur et de la musicienne. On t'en parlera peut-être tout à l'heure. Bon, en fait, il disait qu'il avait une énorme pression parce que tout le monde disait que le film qui avait été fait par le fils de Miyazaki auparavant,
Les Contes de Terre-Mère.
Miyazaki avait plus ou moins dit qu'il aurait préféré qu'il ne sorte pas. Oula. Alors quand tu vois après Miyazaki à la première projection serrer la main du réalisateur et lui lever les bras bien haut, tu te dis waouh. OK. On mettra le lien, ça vaut vraiment le coup puisque du coup elle est accessible sans être abonné et l'interview est vraiment passionnante.
D'accord. Donc Arrietty, déjà on va dire l'effet que ça fait, donc c'est un petit film faisant passer un très désagréable moment. Alors c'est un film dont le scénario a été écrit par Miyazaki et on peut dire qu'il se passe pas vraiment grand chose en fait. C'est une histoire assez minimaliste puisque le garçon rencontre Arrietty, il se passe des trucs, enfin pas des trucs sexuels, attention, hein, voilà.
Non.
Et donc à la fin il se passe ce qui se passe et puis je vais pas spoiler, et puis voilà. Mais c'est vrai que c'est résumable sur Antiquaine Métro quand même, hein, voilà. Après la grande qualité du film, c'est que c'est une mise en scène qui s'attarde sur un rythme lent, sur des détails. Par exemple, c'est le principe des mises en scène qui gardent la magie des histoires qu'elle raconte. Par exemple, on va s'attarder sur, par exemple, la première expédition d'Arrietty avec son père pour aller chaparder les objets. Donc, c'est présenté comme la première expédition, comme un passage rituel. Et donc, on va s'attarder sur comment ils vont grimper sur des meubles, comment le père va scotcher de double face sur ses pieds, sur ses mains. Et on voit un vrai travail de mise en scène. C'est-à-dire, ce sont des plans séquences. On voit, c'est pas, il n'y a pas d'ellipse du tout. On voit qu'il y a un travail sur le son avec le scratch qui est très très bien rendu. On voit que c'est pas simple pour eux non plus de grimper sur des meubles en bois parce qu'il va falloir qu'ils prennent des aiguilles avec des petites cordes pour les envoyer. On voit qu'ils s'y prennent à plusieurs fois pour que la corde tienne bien et tout. Et en animation, c'est très très bien rendu. Il n'y a quasiment pas de musique dans ces moments-là. Et tout le monde dans la salle est comme ça. Est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce qu'ils vont réussir à y aller sans se faire prendre? Donc voilà, il y a quelques moments qui sont des petits bijoux d'animation qui valent vraiment le détour. Et l'autre grande qualité du film, à mon sens, c'est que le postulat qui est que le garçon, eh ben, à un moment donné, il rencontre Arrietty, eh ben, ça se passe le plus naturellement du monde. Il n'y a pas d'effet grandiloquent, il n'y a pas de « attention, oh, j'ai rencontré ». Non, non, il voit la fille, il dit « tiens, une petite fille qui est minuscule », et puis la fille, elle voit le mec, et puis elle essaie de se cacher. C'est, voilà, et puis... ça se passe naturellement, lui il fait pas oh bah tiens qu'est-ce que c'est que ce truc, oh, c'est... bah non, c'est... Oh, c'est naturel, oh bah t'existes, et ça passe comme une lettre à la poste. C'est voilà, ça fait partie de ces histoires un peu, c'est je pense que c'était le bon moyen aussi pour faire accepter ce postulat qui est quand même assez bon, voilà, c'est un garçon qui rencontre une fille minuscule qui tient dans sa main. Et justement, il va y avoir des péripéties puisque le garçon est gardé par une espèce de nounou, grand-mère. On voit toujours des mamies dans les films de Ghibli. Et la grand-mère, on voit qu'elle est adorable, mais en même temps, elle veut absolument capturer les petits chapardeurs parce qu'elle veut prouver à ses patrons qu'elle est pas folle et qu'elle voudrait les garder dans un bocal pour comme ça. Alors après, c'est vrai qu'à échelle humaine, tu te dis, tiens, moi aussi j'aimerais bien en capturer, sauf qu'à l'échelle des chapardeurs, elle est présentée comme un monstre. Et en fait, le film joue sur les deux, les deux points de vue en fait.
Rien que la bande annonce, effectivement, où tu as le chat qui poursuit la fille, c'est. Enfin, tu dis le chat il est mignon et tout. Et après, quand tu le vois effectivement à son échelle et tout, t'es.
Bah c'est ça.
C'est un carnivore, hein. C'est ça. T'as à lui donner des croquettes.
Bah c'est exactement ça. Bah je pense que même quand vous voyez votre chat chasser des souris, vous imaginez un peu être à la place des souris. Vous le trouvez super mignon quand il chasse, mais si vous étiez à la place des souris, vous le trouverez pas du tout mignon. Et le film joue sur les deux points de vue aussi. C'est-à-dire, mais c'est toujours comme ça chez Ghibli, c'est-à-dire qu'il y a toujours le danger et le fait que le metteur en scène vous montre que c'est pas vraiment un monstre qui chasse non plus. Donc c'est juste l'ordre naturel des choses, la nature. Donc le chat, il est présenté successivement comme un animal tout mignon et comme un prédateur. Et donc ça, le film joue sur ça. La nounou, tu peux pas lui en vouloir non plus parce que c'est pas une mauvaise bougre. Mais comme tu, à un moment donné, tu es à l'échelle d'Arrietty, ben tu dis ah putain, ouais, elle se comporte quand même pourvu qu'elle la trouve pas, tu vois. Alors il y a quelques bons petits moments comme ça. Le côté négatif du film, c'est que, alors avant d'y arriver, je vais quand même finir sur les personnages. Donc le fil rouge du film, c'est la relation entre le garçon et la petite Arrietty, et c'est un rapport de force inversé, c'est-à-dire que c'est le garçon qui est paradoxalement paradoxalement le plus faible des deux puisqu'il va être opéré du cœur, et c'est Arrietty qui se trouve plein de vie, de force, qui est pas facile à attraper et qui va, tu sens qu'elle craint moins que le garçon finalement. Le garçon, rien que le moindre effort, en fait, il est fatigué très très vite. Et tu vois qu'il est présenté comme un être faible dès le départ. Il est alité, c'est elle qui va le voir et tout. Et alors après, chacun va essayer d'aller vers l'autre, lui témoigner des messages de sympathie. Et ça va paradoxalement aussi déclencher des catastrophes. Donc parce qu'il faut pas que les chapardeurs soient vus. Et lui, en essayant de les cajoler et tout, et ben à son échelle, chaque geste qu'il va faire va les mettre en danger. Donc le film joue aussi sur ça, c'est assez assez bien vu. Le côté négatif, j'y viens, eh ben, c'est que ça a un côté un peu déjà vu et que ça reste gentillé, quoi. La mise en scène, la magie, tu sens que c'est de moins en moins naturel et que c'est un peu forcé par rapport aux films de Ghibli qui ont fait leur réputation. T'as plus vraiment l'étincelle de vie, la magie qui venait d'un Totoro, d'un Chihiro. D'ailleurs, Chihiro, à mon sens, c'est le dernier grand film qu'ils ont fait puisque les deux derniers Miyazaki, Le Château Ambulant et Ponyo sur la falaise, c'est bien, mais... tu sens que voilà, c'est plus vraiment les mêmes films qu'avant, et puis tu sens que Miyazaki se fait vieux de toute façon.
Bah, il a 80 ans.
Ouais,
et il a pratiquement le même âge que Gilles Loup. Mais c'est vrai qu'il a 80 ans, il a encore bon pied, bon œil et tout ça, et à ce qui paraît des fois des phrases homériques vis-à-vis de ses assistants, mais peut-être qu'il a un petit peu resté dans son registre.
Bon après, tu vois que voilà, tu montres ça à n'importe qui, tu prends quand même une petite claque parce que tu vois que ils maîtrisent quand même. Voilà, il y a de la maîtrise. Par contre, voilà, c'est par rapport à ce qu'ils ont fait avant, tu vois, peut-être un peu déçu. Après, tu parlais tout à l'heure de la compositrice de la musique. Il s'agit d'une Française.
Cécile Corbel.
Voilà, qui est bretonne.
Oui, tout à fait. Harpiste bretonne, plutôt connue au Japon d'ailleurs, étonnamment.
Connue depuis qu'elle a fait ce truc, hein, surtout quoi.
Bah non, avant, elle avait sorti un premier album, et c'est ce premier album, parce qu'elle a toujours été fan de Miyazaki, etc. Ce qu'elle raconte dans l'interview qui a été faite donc pour la chaîne dont j'ai réussi à citer le nom, elle racontait qu'elle a envoyé par remerciement, avec une lettre de remerciement, parce qu'elle disait que c'était les films des studios Ghibli qui l'inspiraient. Normalement, elle a envoyé au producteur. J'ai oublié son nom. Le producteur dit: je reçois plein de CD et tout, d'habitude je les écoute pas.
Ah c'est sympa.
Et là il a dit par hasard je me suis dit je vais écouter, etc. Et ils l'ont rappelé et ils ont proposé de travailler ensemble. Donc elle a vraiment participé à la production du film.
Alors le petit défaut, c'est que la musique n'est pas désagréable. Par contre, elle est un chouïa présente, et c'est vrai que les paroles
c'est
en anglais,
c'est pas la musique, hein, qu'on écoute.
Et les paroles en anglais des chansons font qu'elle ne se fait pas oublier par rapport à ce qui se passe à l'écran, mais elle est très 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 présente. Et à un moment donné, ça te fait un petit peu décrocher de l'action, quoi.
À noter, je crois qu'il y a une version française.
Oui, le générique de fin. Alors, je pense que c'est pour la sortie en France. Le générique
mais
sur les crédits.
La version française du dessin animé.
Oui,
ben la chanson et les chansons sont aussi en français, à ce qui paraît.
Alors non, moi j'ai vu la VF. Mmh. Je l'ai vu en VF parce qu'il ne passait pas en VO, puisque attention à Toulouse,
il passe en VO, mais le soir. Hein, c'est-à-dire si tu vas dans les séances d'après-midi, c'est effectivement en VF, mais pour les deux séances du soir, 20h et 22h, ça passe en VO. Gomo Wilson.
Okay. Mais merci pour cette précision. Alors, sachant que tous les cinémas ne le passent pas, attention, hein, parce qu'il fait, c'est pas une sortie technique, mais il sort pas dans tout le parc de salles. Alors moi je l'ai vu en VF justement. Alors les paroles des chansons dans le film sont en anglais, mais le générique de fin est en français. Voilà. Voilà, la musique elle est pas désagréable, mais c'est vrai qu'elle est un peu trop présente pour moi. Donc Arrietty reste quand même un chouette petit film, mais bon, ça reste un Ghibli mineur. Donc on va rappeler la référence: Arrietty, le petit monde des chapardeurs des studios Ghibli, réalisé par Hiromasa Yonebayashi, qui vient de sortir, donc il est encore sur les écrans.
10 millions de spectateurs au Japon lors de sa sortie.
Il a cartonné,
hein. Ouais. Et le single, alors que ça,
c'est un format.
Le format ne marche pratiquement plus, mais c'est vrai qu'au Japon, ils ont une culture du CD single qui cartonne énormément. Du moins quand ça a été lancé, et ben il s'est quand même vendu à 200 000 exemplaires. Donc bien cartonné quand même. Donc bon plan pour elle. C'est. Je demande à voir, toi tu es en plus y aller avec des gamins.
Pas du tout, je suis allé avec ma douce et qui m'a confirmé ce que je pensais, c'est-à-dire qu'elle avait trouvé sympa mais juste gentille.
Supplément week-end du 22 janvier 2011 sur Radio FMR 89.1 MHz et il est 13h27 et j'ai demandé à du sport, tu fais quoi? Tu fais les films ou tu fais les séries? Parce que là, on va avoir des problèmes avec le producteur de l'émission de sport. Il m'a dit, oh non, pas de problème, je fais le tout. Et oui, du sport, il est fidèle, il n'y a pas de problème, il vous fait tout. Pardon, excuse-moi, c'était coupé.
Même le café.
Ouais, le café qu'il rapporte. Avec le poêle soyeux. Non, les champs de blé.
En fait, comme Sushi est absente encore cette semaine, bah, on va en profiter.
Oh hein.
Ça sent la rupture.
Non, pas du tout. Alors, série tout d'abord.
C'est
parce
une
que
blague,
bon,
bah, Christine, c'est une blague.
Il y a de l'inédit en vue. Mais comme d'habitude, sur des chaînes cryptées. Hein, tout d'abord, sur Canal+, c'est peut-être la prochaine bonne surprise. En tout cas, quand cette série est sortie à l'époque, eh bien, ça a fait beaucoup de bruit outre-Atlantique parce que son titre, Détroit 187. Alors, vous connaissez bien sûr 187.
Code meurtre.
Voilà, c'est ça. Hein. Et quand on sait qu'à Détroit, l'ancienne capitale de l'automobile, mais bon, on sait que c'est plus la capitale de l'automobile... Celle-ci se situe
plutôt... C'est quoi,
plutôt...
c'est Pékin maintenant ?
Ouais, du côté de Tokyo. Eh bien, Détroit est une des villes les plus criminogènes actuellement, hein, plutôt plus fort taux de criminalité. Et donc, les gens de Détroit, quand ils ont vu arriver la série, ils se sont dit « Ouais, non, mais c'est bon, on a assez de problèmes comme ça, c'est pas la peine d'en rajouter, les gars. »
Et bon, voilà, il a replacé son café. Sort pas des
plumes, non, mais ça peut quand même le faire. Alors, série instillée par ABC, troisième dans l'ordre de grandeur des chaînes institutionnelles aux États-Unis, hein, après CBS et NBC.
Oui, enfin, actuellement, en audience, sont plutôt deuxième derrière CBS. Et NBC est quatrième. Hein.
Et qui a été, et donc cette série qui a été créée par Jason Richman. Jason Richman, qu'on connaît plus pour ses scénarios de films, qui ne sont pas mémorables. Swing Vote en 2008, ça te dit quelque chose? C'est un film qui raconte l'histoire de la bidouille des bulletins de vote en Floride lors de l'élection d'un certain George B. Rappelle-toi.
W. Ouais,
W.
La fiction, il a fait, ou le documentaire?
J'ai pas précisé, quoi, mais je pense que c'est une fiction, hein, fiction documentarisée. C'est lui qui scénarise également aussi l'inénarrable Bangkok Dangerous, mais la reprise avec Nick Cage.
Oh merde.
Et qui fait également le scénario de Bad Company, un excellent navet de Joel Schumacher en 2002. Par contre, le producteur David Zabel est quand même un producteur confirmé, vu que c'est quand même lui qui, avec un certain Michael Crichton, a créé une série dont tout le monde se souvient. Rappelle-toi, les dimanches soirs passés.
Urgence.
Ah, voilà. Et
tu dis Crichton, toi, au lieu de Crichton.
Ouais, parce que bon, ouais, je dis comme je veux, quoi, de toute
D'accord.
façon.
Clark Gable.
Ouais.
On va encore se faire flinguer.
Et surtout parce qu'on y retrouve, eh bien, des acteurs habitués de très très bonnes séries policières. Déjà, on a le cousin de Tony Soprano, Michael Imperioli, dans un des rôles principaux, John Michael Hill et James McDaniel. On se demandait où il était passé, celui-là. Rappelez-vous, Arthur Fonci, le patron de NYPD Blue, le Black, le Black, hein, Paesail Morales, qu'il remplace justement hein, vers la fin de la série, à la saison 10 ou 11. Non, le premier. Et donc on suit le quotidien en fait de trois équipes de détectives dans un commissariat de Détroit et tout. Bon bah ok, hein, rien que du tout. Mais c'est la façon de filmer qui est un petit peu différente et tout, un peu plus nerveuse, caméra sur l'épaule et tout, tout team. Mais ça, on est obligé d'y passer maintenant. Hein, je veux dire, depuis qu'il y a eu certaines, certains films, certaines séries qui ont instillé le mouvement, bon maintenant c'est plus ou moins obligé et tout, faut que ce soit rapide, faut que ce soit saccadé, haletant et tout, bon ben ça peut le faire quand même. Canal Plus vous la programme le jeudi hein, donc en prime time à partir de 20h50 avec ces deux premiers épisodes de Détroit 187. Autre série inédite qui sera diffusée à partir de mardi prochain à 20h40 sur Orange Cinémax. Alors là ça peut être une surprise. Ça peut être bah, quelque chose qui va passer plus ou moins inaperçu. Il n'y a qu'une seule saison parce que bon, quand la chaîne qui a quand même la chaîne câblée qui nous a quand même fait découvrir quelques perles, deux perles que sont Mad Men et Breaking Bad.
Ah ouais.
La chaîne AMC. Ouais. On se dit, on va quand même jeter un petit coup d'œil. On ne sait jamais. Ça peut peut-être valoir son pesant de cacahuètes. Il n'y a que 13 épisodes parce que justement, bah, ça n'a pas trop marché en termes d'audience. Et que donc ben, la chaîne s'est arrêtée, ça s'appelle Rubicon. Vous connaissez tous l'expression franchir le Rubicon, bien sûr. Oui. Hein, ça avait passé de l'autre côté. Bon, bah ok. Et là, bien.
C'est surtout qu'il y a une différence par rapport à HBO. AMC n'est pas une chaîne par souscription, c'est une chaîne publicitaire.
Ok, ben, si tu le dis. Hein. Tout de suite, des.
C'est pour ça qu'ils arrêtent les séries quand ça marche pas.
Des considérations commerciales, tout de suite, là, tu vois. Bah, quoi. Oui. Et l'art là-dedans. Hein. Alors, le pitch est relativement simple et peut-être un petit peu chiant. On se dit, oh non, pas encore une fois ça et tout, quoi. Alors, c'est l'histoire d'un jeune analyste qui travaille dans un service de renseignement. Hein. Ça peut être la NSA, ça peut être la CIA. Et qui, en analysant certains documents comme ça, eh bien, se rend compte qu'il y a peut-être un complot. Thèse qui va être renforcée quand son supérieur hiérarchique meurt bizarrement dans un accident de train. Et là, va s'enchaîner ce qui va s'enchaîner. Ça dure 13 épisodes donc, et l'interprète principal c'est James Bechdel qui a été révélé dans la dernière série instillée par Spielberg, The Pacific, où il joue l'un des rôles principaux. On y retrouve également Miranda Richardson et le producteur, c'est pas n'importe qui, c'est Henry Brommel qui nous a fait Homicide, Life on the Street, qui nous a fait Chicago Hope et qui nous a fait Brotherhood, pour ne citer que les plus
connus. Ah oui, d'accord, donc il a un catalogue assez général.
Gros catalogue.
C'est producteur, mais...
Oui, non, mais ça va.
Mais
hein,
il le fait bien, quoi.
Il n'y a pas de problème. Donc, ouais. Ça s'appelle Rubicon et ce sera télédiffusé sur Orange Cinémax à partir de mardi prochain, 20h40.
À noter que c'est une chaîne qui va être fusionnée avec TPS Star. Hein. Canal Plus et Orange sont en train de se mettre d'accord, mais évidemment, les autorités de tutelle vont dire... Vous les gardez pas sur le réseau.
Troisième traitement inédit également sur le bouquet Orange, mais là plutôt la chaîne familiale, Orange Ciné Happy. Ça s'appelle Pretty Little Liars et ça raconte l'histoire de quatre jeunes filles. L'une d'elles meurt et que se passe-t-il ? Rien. Mais bizarrement, un an après, eh bien, elle commence à recevoir des petits textos. Des petits messages, des lettres provenant de la disparue. Mais que se passe-t-il ? Mais que lui est-il arrivé vraiment ? Parce qu'on ne sait pas comment elle a disparu. Hein. Ça reste dans le vague. Alors bon, ça reste assez léger quand même. Hein. C'est avec, entre autres, parmi les actrices les plus connues, Holly Marie Combs, qu'on avait vu dans Charmed.
Oui, oui,
hein,
tout à fait.
Celle qui est la plus fadasse d'ailleurs.
Ouais,
hein,
la sage, là.
Oui, oui.
Scamboureuse de l'ange, là.
Voilà, ouais, ouais. De l'un des anges.
Oui.
Hein. Et il y a également Lucy L., Ashley Benson, Shay Mitchell et, alors là, la grosse surprise, Troyan Belisario. Ce nom vous dit quelque chose.
C'est le fils du producteur, de Donald.
Non, c'est la fille.
C'est la fille.
La fille. Troyan. Et ça s'explique un petit peu parce que elle, on l'a déjà vu dans NCIS. Dans Jag et dans Quantum Leap.
Merde. Oh, putain.
Dans quoi? Quantum...
la série où il voyage à travers le temps.
Code Quantum, voilà. Donc c'est Pretty Little Liars, ça passe sur Orange Cinéapi à partir de demain soir, 20h40. Il y a également la saison 3 inédite de Damages qui commence sur Canal+.
Ah,
jeudi prochain, juste après les deux épisodes de D387.
La série est sauvée, on a appris cette semaine qu'il y aura deux nouvelles saisons. Acheté par un réseau câblé.
Ouais.
Pas par un réseau, pardon, par un distributeur.
Ouais, ils l'ont échappé belle parce qu'il faut bien dire que si la première saison de Damages est absolument magistrale, la deuxième est un peu plus chiante, alambiquée.
Et puis surtout, on se dit, normalement, ça y est, il est flingué juridiquement. Comment il va essayer de revenir? Il fait une rédemption. Et puis elle, on sait que c'est qu'elle fait des coups de pute et tout. Et puis petite jeunotte maintenant qu'on apprend qu'elle se fait approcher par le FBI.
Et tu crois qu'il y a Frobisher qui revient, c'est ça?
Bah peut-être. Donc Damages, un jeudi prochain à partir de 22h10. Alors ça fait longtemps que j'avais pas parlé de One Shot Note.
Ah oui.
Ils reviennent, mais à un horaire assez indu, moi je dirais quand même, le dimanche soir. Après la théma à 23h45.
Il n'était pas super bien programmé quand même au départ. Je te rappelle que aussi il y avait l'émission live présentée par l'English de ces dames qui était aussi diffusée à des horaires absolument n'importe comment.
Ouais, mais avant c'était samedi soir, donc ça le faisait un peu mieux, quoi. Tu vois, le lendemain tu peux rester au lit, y a pas de problème. Parce que le dimanche soir,
c'est un petit peu plus difficile. Après, on s'étonne qu'Arte fait des audiences de merde, mais tout le monde enregistre.
Alors, dans ce One Shot Note programmé demain soir, 23h45, il y a du beau linge quand même. Brian Ferry, hein. Ouais. Camille, Stefano Di Battista, ça vous connaissez pas, mais c'est normal parce que c'est du jazz. Et.
Le flingueur!
Kezia Jones, voilà. Hein,
bon, je rappelle qu'à 14h, quand même, du sport, vous mettez sa race dans l'histoire du rock et du jazz.
Entre autres. Et là, carrément, message, tu vois, quoi, pour te dire. Donc, c'est One Shot Note et ça passe.
Mais tu es sourd.
Demain soir, 23h45.
C'est quoi ces messages de SMS?
C'est super fort. Hein,
c'est ignoble.
Ton son, là, de ton téléphone.
Attends, tous mes portables sont éteints.
Je peux pas le régler.
Ah mince.
Non.
Bah tu veux un téléphone?
Je peux régler le son de la sonnerie, mais pas de.
À mon avis, c'est une urgence. Hein.
Ouais, non, tu parles.
Tu veux un téléphone?
Tu parles. C'est SFR qui me souhaite bonne année. Quoi.
Cool.
Alors bon, ça ira quoi. Alors des films maintenant. Et puis bon, ok, il y aura que des westerns cette semaine. Comme ça, il y en a pas trop, quoi. Hein, pour limiter. Ce soir, un seul western déjà vu, revu et tout,
putain,
mais toujours super cool à regarder. C'est La Bataille de Saint-Sébastien. Le film de Verneuil avec Anthony Quinn, Charles Bronson et surtout Sam Jaffe, bien entendu, quand la ville d'or, rappelez-vous. Demain sur TF1, 13h35, dans Walker Texas Rangers, l'épisode.
Cette merde.
L'épisode au nom de la justice.
Au nom de la joie.
Walker a trop mangé de mescaline et ses visions le projettent dans le 19e siècle où il sera chargé de réparer une injustice.
Attends, déjà, tu veux dire qu'il se drogue?
Non, ça c'est moi qui l'ai.
J'ai eu peur.
Enfin, le vrai pitch, c'est que Walker a des visions et ses visions le ramènent dans le 19e siècle. Voilà, c'est ça le truc. Je me suis dit, bon, on allait épicer un petit peu le truc, quoi, quand même.
Oui, il s'est dit qu'il allait tourner un film avec un épagneul.
Non, tu rigoles, attends. Sur Energy 12 demain soir à 20h35, Patriot de Roland Emmerich avec Heath Ledger, Mel Gibson, Joely Richardson, Jason Isaacs et Chris Cooper. Bon, il faut surtout regarder le film parce qu'il y a Chris Cooper dedans, quoi, de toute façon. Et Heath Ledger aussi un peu, quoi. Tu vois, bon, enfin bon, c'est vraiment gnangnan.
Ouais,
ça va. Non, c'est pas ça, mais enfin bon, c'est l'histoire du père, du fils et tout. Ouais. Bon, c'est n'importe quoi. Enfin bon,
et puis, c'est Roland Emmerich surtout.
Ouais, bon, ok. Sur Orange Ciné Choc, je vous rappelle, demain soir, Justified, cette série western, dont vous avez déjà vu les deux premiers épisodes dimanche dernier. Demain, deux autres épisodes, dont le troisième de la série qui s'appelle Western, justement. Le quatrième s'appelle Dent pour Dent. Et surtout, après ces deux épisodes, à 22h15, donc sur Orange Ciné Choc, un petit documentaire, Elmore Leonard, l'auteur de Polar, qui a inspiré cette série, hein, c'est d'après quelques de ses romans, Elmore Leonard, vu par François Guérif. François Guérif, qui est quand même le monsieur qui, chez Payot, a créé la section polar Rivage. D'accord.
D'accord.
Hein, et qui a écrit de nombreux bouquins sur les polars, que ce soit au cinéma, que ce soit dans les bouquins. Bref, c'est une autorité reconnue, donc ça vaut son pesant de cacahuètes, à mon avis. Lundi sur TCM à 22h15 sur le territoire des Comanches, bien traduit parce que bon, le titre original c'est Comanche Territory, Comanche, de George Sherman en 1950 avec Maureen O'Hara et Will Gear. Alors George Sherman, à ne pas confondre avec Jim Charman, que vous connaissez parce que c'est quand même le mec qui a fait Rocky Horror Picture Show, à ne pas confondre non plus avec Vincent Sherman. Hein, George Sherman, lui, il est né en 1908 et bah il n'a fait que pratiquement que des westerns. Il a tourné au moins 80 films, au moins. Et sur ces 80 films, il y a 65 westerns. Alors pour vous dire, il a commencé en 1938. 1938, son premier western, Wild Horse Rodeo. Mais la même année, il en fait 7 autres. En 1939, il tourne 10 westerns la même année, dont Mexicano Rose, New Frontier. En 1940, 9. En 41, 9 westerns. En 42, 7 westerns. Après, bah, il ralentit un petit peu la cadence. Il n'en fait plus que 4 à 5 par an. Hein, c'est là, vous êtes complètement sur le cul, mais ouais, c'est comme ça. Bon, ça a toujours été un réalisateur de série B ou de même voire Z, mais enfin bon, il a quand même tourné jusque dans les années 60. Il a quand même fait d'autres films tels que Le Prince de Bagdad en 53. Celui-là, il est quand même relativement connu. Et à partir des années 60, bon, il fait plus que deux ou trois films comme ça, quoi, jusqu'à la fin des années 60. George Sherman, donc, dont il y a un autre film qui est programmé cette semaine. On y reviendra plus tard. Mardi sur TPS Star à 20h40, There Will Be Blood de P.T. Anderson avec Didi Lewis et Dylan Frazier. Mais bon. C'est du western, hein, y a pas à péter, hein, même s'il y a pas beaucoup de guns et puis qu'il y a pas de règlement de compte. Si, si, y a beaucoup de règlement de compte, hein, mais bon, hein, sur Ciné-Cinéma Classique, un autre George Sherman à 20h40 mardi prochain, Le Diable dans la peau, qui est, dont la version originale en anglais est Hellbent for Leather, avec Audie Murphy, Felicia Farr et Stephen McNally. Audie Murphy qui est pris pour un criminel et tout, et qui va chercher pendant tout le film, essayer de dire non, c'est pas moi et tout, et qui est aidé par Felicia Farr et tout, quoi, parce que bon, elle croit que c'est vraiment pas lui, voilà. Et c'est suivi par l'un des chefs-d'œuvre du western, La Horde Sauvage, à 22h05, bien sûr, hein, Holden, Borgnine, Ryan, Ben Johnson. Ouais, n'en jetez plus. Mercredi, il n'y a pas. Si, il y a du western, mais mercredi sur NT1, c'est quand même la soirée NT1 du mercredi. Allez, soirée spéciale d'Akaskos.
Oh là là.
Avec tout d'abord à 20h35, Impact imminent de James Seal avec Tamara Davis, Mark Dacascos, Rutger Hauer, John Rhys Davies, Mark Rolston.
Attends,
c'est du lourd.
Mercredi, putain.
Mercredi 20h35, NT1. Suivi à 22h20, Le Fugue de Steve Wong, avec bien sûr Mark Dacascos, Caddy Mardison et John Piper Ferguson. Sur Orange Ciné Géant, mercredi prochain à 20h40, Along Came Jones, le grand Bill. Et Long Came Jones, c'est d'ailleurs la chanson des Coasters, le titre de la chanson des Coasters, que Henri Salvador a traduit, Zorro est arrivé. Voilà, ok. Et ça, c'est un film de Stuart Eisler. Alors, Stuart Eisler, lui, c'est un excellent. Alors, Grand Bill, c'est avec Gary Cooper, William Demarest et Laura Taillon. Stuart Eisler, lui, il commence sa carrière au cinéma comme assistant de Max Sennett. Ensuite, il va être monteur jusqu'en 1936. Et ensuite, il va commencer à réaliser des films. Et sa première bonne réalisation, on va dire, c'est La Clé de Verre en 42. Bah ouais, hein. Ensuite, il va tourner Tokyo Joe, par exemple, en 49. Avec Bogart, il va faire Beachhead, La Patrouille Infernale en 54, avec un certain jeune acteur qui allait devenir célèbre après, Tony Curtis. Il nous fait également I Died a Thousand Times en 55, le remake d'ailleurs de High Sierra de Walsh, traduit par La Peur au Ventre. Il fait le Justicier Solitaire, The Lone Ranger en 56, et il termine bizarrement par un film qui s'appelle La Vie Privée d'Hitler en 1962. Tout ça, c'est Stuart Eisler. Donc, Le Grand Bill, c'est mercredi prochain, donc sur Orange Ciné Géant à 20h40. Jeudi, il n'y a que dalle. Et vendredi, sur TCM, bonne soirée avec tout d'abord Josie Wells de Clint Eastwood, pas mal. Suivi du Wyatt Earp de Laurence Kasdan, Costner, Quaid et Gene Hackman. Ouais, ça vaut le coup. et sur la chaîne Action, c'est assez rare qu'ils passent des westerns, ils en passent quand même de temps en temps, à 21h, quand siffle la dernière balle, Shoot Out de Henry Hathaway en 70, bon, c'est un peu poussif comme western, mais c'est regardable quand même, avec Gregory Peck et Don Lynn.
Nom d'un six-coup, non, j'avais prévu autre chose, c'était le nom d'un redressement fiscal. Thomas, peux-tu faire le résumé pour ceux qui, par hasard, ont pris l'émission en cours de route ?
Oui, tout à fait.
Et je ne mimerai pas le...
Nous avions un fond sonore, justement, spécial lane. Uderzo, qui n'est pas...
Non, celui-là, c'est normal.
Uderzo, qui n'est pas dessinateur de BD. Un psychopathe qui a...
Non, il est dessinateur de BD et pas scénariste.
Voilà. Un psychopathe qui a mauvais goût, de l'ovni qui crâne, un gros pavé avec de la japonaise et des dragons, une pub avec des chiens au ralenti dans le blé, une frelon plein aux as, des mini-pousses, du papier crétone, de le retour d'un flingué, du jazz qu'on connaît pas, les vœux d'un opérateur, Chuck Norris a des visions et une époque spéciale cowboy.
Nom d'un 50 Hz, s'ils ont manqué tout ça, heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission, aussi retrouver les chroniques écrites, par exemple No Mercy, Very Bad Cop, j'ai beaucoup aimé ta conclusion, et Harry Potter et les reliques de la mort, bon, au départ je pensais en le relisant que tu allais le flinguer, et en fait non. Pourtant, j'ai écouté l'émission.
C'est quoi, Harry Potter ?
Ah oui.
C'est très bien.
C'est pour ça, c'est très simple. Il suffit d'aller sur notre site web, supplementweekend.fr, supplementweekend.fr, sans accent ni tiré. Vous écoutez FMR sur 89,1 MHz, 50 Hz. Nous sommes en direct, en alternance avec Booster FM, et on continue sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, Ultimatum aura des charentaises. Pourras faire l'insert téléphonique.
Allez, pour vous, oui. Ah, il faut que je voie mon programme d'interview. Attends, c'est booké.
Surtout que tu seras à ce moment-là au conseil général de la Charente.
Oui, c'est pas faux.
C'est quoi que t'as pas compris ?
Oh oh.
On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence, 13h48 minutes pile. Et du sport est en train de vérifier sa boîte vocale. Donc la suite des programmes, vous aurez 10 minutes de sport et ensuite une heure de musique pour vous éduquer, bande de jeunes.